J'aimerais vous parler de... Alors j'étais inspiré par deux messages que j'ai entendus récemment, qui ont été prêchés en début du mois, je crois, à Baltimore, un de pasteur Gary et un autre de pasteur Chaleur. C'était la même soirée. Et le thème ou le titre de ce podcast, c'était le chaînon manquant. Et peut-être que je vais dérouler un peu cette pensée tout en continuant la première épître de Pierre, mais j'aimerais commencer une autre série cet après-midi sur cette notion du chaînon manquant. Mais avant cela, j'aimerais qu'on lise, juste pour rappel, quelques extraits de la parole de Dieu, tout d'abord dans Ésaïe chapitre 7 et au verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Il est prophétisé ceci, donc bien avant la naissance du Messie. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Cette notion d'Emmanuel, ce prénom-là qui est prophétisé, annoncé, est repris au chapitre suivant, chapitre 8, verset 8. « Il pénétrera dans Juda, donc ça part du Messie, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. » Et enfin, accomplissement de la prophétie, Matthieu chapitre 1, verset 23. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ce qui est très intéressant, c'est que dans la prophétie faite en Ésaïe, dans l'Ancien Testament, cette prophétie s'adresse premièrement au peuple juif. Le Messie doit être à la fois le Sauveur et aussi le Roi qui doit succéder à David. Et cette prophétie donc est en train de s'accomplir, et c'est ce que nous fêtons en cette saison, la naissance de l'envoyé du Père, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Mais alors que Matthieu, qui est un évangile qui s'adresse particulièrement aux Juifs aussi, même s'il s'adresse à nous aussi, c'est dans le Nouveau Testament, mais on le sait quand on étudie un peu les Écritures, l'évangile de Matthieu est imprégné de culture juive. L'auteur veut vraiment prouver aux Juifs que Jésus a pleinement accompli les prophéties faites à Israël dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est pour cette raison, Matthieu va parler de cette prophétie, il va la répéter, on vient de la lire ici. C'est intéressant d'ailleurs parce que quand vous comparez l'évangile de Luc et de Matthieu, l'évangile de Luc qui s'adresse à l'humanité tout entière, à tous les peuples, Luc, l'évangéliste, est lui-même un grec, ce n'est même pas un juif, c'est un grec, donc il s'adresse à l'homme en général, il fait remonter la généalogie de Jésus jusqu'à Adam. En revanche, Matthieu, dont, si vous lisez le premier chapitre, fait remonter la généalogie de Jésus jusqu'à Abraham. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse aux Juifs, justement, donc il s'arrête là. Néanmoins, et ça c'est le cœur de Dieu, et c'est aussi le ministère que vont avoir les apôtres, notamment Matthieu, c'est que Matthieu, même s'il s'adresse principalement aux Juifs, il prouve par la prophétie faite dans l'Ancien Testament, écrite par des Juifs pour des Juifs, et qu'il rappelle cela dans Matthieu chapitre 1, verset 23, il rajoute quand même quelque chose. Il dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pourquoi il fait cela? Parce que les Juifs savent ce que ça veut dire Emmanuel. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Mais parce qu'ils savaient que le message allait s'adresser aussi aux païens. Et donc, le Saint-Esprit a conduit Matthieu à rajouter cette explication. Et ça, c'est le cœur de Dieu. C'est que Dieu veut se révéler à tout le monde, et Dieu va, d'une manière ou d'une autre, toujours traduire sa pensée pour qu'elle soit accessible pour nous. Toujours. Il va toujours se mettre à notre place. Vous savez, des fois, quand vous discutez avec certaines personnes, et en tant que pasteur, je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai mes forces ou mes faiblesses, mais des fois, quand je communique quelque chose, même si j'ai bien communiqué, ça ne veut pas dire que la personne a bien compris. Alors, si en plus je communique mal, le problème s'amplifie. Mais c'est des fois très compliqué de faire passer une idée, parce que chacun a sa logique. Des fois, vous allez utiliser un mot qui n'est pas compris de la même manière par votre interlocuteur. Et ça pourrait être le problème avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu veut s'exprimer à des êtres pécheurs qui ne pensent pas à lui, qui ne forcément ne regardent pas à lui, qui ne pensent pas à lui, et qui vivent leur vie un peu comme des enfants prodigues, hein, des enfants qui, voilà, ils font leur vie sans écouter leurs parents. Et donc Dieu veut toujours nous interpeller, et il est capable de le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'en tant que chrétien, nous avons reçu le Saint-Esprit aussi. C'est que le Saint-Esprit va, si j'ose dire, interpréter ou illuminer les Écritures pour nous. Alors qu'avant, on ne comprenait rien aux Écritures, bien entendu, on a encore besoin qu'on nous les explique. Néanmoins, il y a quelque chose qui résonne dans notre entendement, parce que le Saint-Esprit nous aide à comprendre des principes spirituels. On n'est pas mieux que les autres, mais on est aidé par le Saint-Esprit. Et l'œuvre d'un évangéliste, ou de tous ceux qui veulent évangéliser, c'est celle-là aussi. C'est de communiquer la pensée de Dieu. Si on communique mal la pensée de Dieu, c'est très difficile pour les gens d'accepter Dieu. Et donc, on doit être les bons interprètes. C'est pour ça qu'il faut étudier les Écritures, mais aussi mettre en pratique les Écritures, marcher dans les voies du Seigneur, et du coup, on va être comme un peuple particulier, nous faisons partie du peuple de Dieu, qui allons nous adresser à des gens qui ne font pas encore partie de son peuple, mais qui sont appelés à le devenir. De la même manière que le peuple juif était le peuple juif, mais les païens avaient, par la mort de Jésus-Christ, accès maintenant à la bénédiction universelle. Et donc, Dieu a tout fait, et notamment là, au travers de Matthieu, pour nous faire comprendre quelque chose. Et qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre là ? Que Dieu est avec nous. Parce que non seulement il interprète le prénom Emmanuel, mais en plus, c'est une interprétation qui ouvre des perspectives. Jésus aurait pu être présenté comme étant Dieu en colère. Et Dieu l'est en colère très souvent, à cause du péché, à cause de l'injustice, de l'impiété. Il l'est. Ça aurait pu être aussi Dieu sait tout. Bien sûr qu'il sait tout. Mais c'est pas ce côté-là de sa personne qu'il a voulu présenter. Ce qu'il a voulu présenter au travers de Jésus-Christ, c'est cette vérité que Dieu veut être avec nous. Et nous, en tant que croyants, on a tendance des fois à oublier cette vérité. Vous savez, des fois on invite des gens, ça nous aide, avec mon épouse on rigole parfois, parce que des fois on invite des gens, mais ils viennent jamais, ils peuvent jamais. Des fois au bout d'un moment vous dites, mais peut-être qu'ils n'ont pas envie de venir, hein. Je veux dire, donc on arrête, on arrête de les inviter, parce que des fois, alors peut-être il y a des bonnes raisons, mais au bout d'un moment on se fatigue si vous voulez. Mais Dieu, lui, se fatigue pas, il veut toujours être avec nous. Si on l'y invite, il viendra. Si on est des enfants désobéissants et qui vont revenir à Dieu, Dieu restera disponible. Dieu, il a envie d'être avec nous. Des fois, il y a des gens qui se demandent, hein, si ça leur fait plaisir qu'on soit là, si ça leur fait plaisir lorsqu'on les invite. Mais Dieu, ça lui fait toujours plaisir qu'on puisse l'inviter. Toujours. Dieu a envie d'être avec nous. Ça va d'ailleurs être communiqué d'une certaine manière par Jésus, vous rappelez, avant qu'il aille à la croix, qu'ils vont célébrer la dernière Pâque, il dit « J'ai ardemment désiré célébrer cette Pâque avec vous. » Il avait envie d'être avec les disciples, avec les apôtres. Parfois, nous, on n'a pas envie d'être avec Dieu, il faut être honnête. On a notre façon de penser, on bute dans certains domaines, alors à cause de la culpabilité, de la désobéissance, la rébellion. Des fois, on n'a pas envie que Dieu soit là. Mais Dieu, lui, il a toujours envie d'être avec nous. Il ne nous lâchera pas. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Et c'est intéressant parce que on voit là que non seulement il accomplit la prophétie, ce qui est déjà en soi une marque de sa fidélité. Parce que vous savez, on est entouré de gens qui nous font des promesses aujourd'hui. Je serai toujours avec toi, t'inquiète pas, oui, je serai là, oui, oui. Et puis, des fois, ça ne se passe pas. Mais Dieu, lui, il accomplit ses promesses. S'il y en a bien un qui ne faillit pas, c'est lui. Il accomplit sa promesse, il vient. Et alors, comme il veut se manifester, et on l'a vu avec Matthieu qui interprète ce nom, lorsque Jésus naît, Dieu veut que ça se sache. Et en règle générale, J'ai lu ça dans un bulletin d'information là que j'ai reçu à l'église et j'ai repris cette idée. C'est que l'auteur qui parlait de ce passage de Matthieu disait lorsqu'on envoie un faire-part pour une naissance, en règle générale, on les envoie aux personnes qui nous sont les plus proches. Nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, puis après éventuellement collègues de travail, enfin après il y a le cercle qui s'élargit, puis il y en a d'autres, on leur annonce même pas. Mais là, les premières personnes à qui Dieu s'adresse en envoyant un ange, ça va être à des bergers. Lisons ensemble Luc chapitre 2 à partir du verset 8. Luc chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 14. Il y avait dans cette même contrée, donc là il s'agit de Bethléem, parce que juste les versets précédents, on peut lire la naissance du Messie, le fait qu'il est né dans une crèche et qu'ils l'ont installé dans une mangeoire. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les anges qui l'agréent. » Donc là, nous voyons un ange d'abord qui apparaît et qui annonce quelque chose, une information. Il présente ce qu'il se passe, enfin il annonce ce qu'il est en train d'arriver, la naissance du Messie. Et si on oublie un peu l'histoire de Noël, admettons qu'on ne sache pas que Jésus soit venu sur la terre, admettons qu'on l'attende encore et qu'on échafaude un peu des plans, on pourrait se dire, bon, si le Messie vient un jour, de quelle manière il viendrait? Où est-ce qu'il va naître? C'est le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui va juger les vivants et les morts, celui qui a tout créé, qui est la parole de Dieu même. On aurait pu penser qu'ils naissent dans un palais, qu'ils naissent au moins dans un hôtel 3 étoiles, 4, 5 étoiles, je ne sais pas si ça existe, je ne suis jamais allé. Mais en tous les cas, c'est pas là la mangeoire, c'est pas l'idée qu'on se fait d'une naissance royale. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une mangeoire, mais ça ne me donne pas envie de boire ou de manger dedans, je peux vous garantir. Parce qu'en général, vous mettez de la mélasse dans la mangeoire ou du foin, puis vous avez les animaux qui mangent ça, puis au bout d'un moment, la crasse s'accumule, mais on nettoie pas, on rajoute. Voilà, ça c'est une mangeoire. Et lui, pour Jésus, pour le Fils de Dieu, ça a été son berceau. Il a été placé là où on s'occupe des animaux. L'homme parfait a été placé là. Et autre chose aussi que l'on réalise, c'est que non seulement il n'est pas né, je dirais, dans un environnement très favorable, mais le faire-part n'a pas été envoyé aux grands de ce monde. Le faire-part n'a pas été envoyé à Hérode, il n'a pas été envoyé à l'empereur. Le faire-part n'a pas été envoyé aux scribes, aux pharisiens, aux docteurs de la loi. Le faire-part a été envoyé à des bergers. Et les bergers, à l'époque, dans cette situation-là, c'était pas des gens bien vus. J'ai essayé de drainer quelques informations. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus n'est pas né en décembre. Hein. Je peux, désolé de vous décevoir, il n'est pas né en décembre. Voilà, il est né sans doute au printemps, et les bergers ne gardaient pas 24 heures sur 24 les troupeaux dans la montagne en plein hiver, parce que même en Israël, dans les montagnes, il peut faire froid. En général, c'était entre mars et novembre que les bergers effectuaient les transhumances. Et donc, les bergers, c'était des gens qui étaient isolés de la société, pour plusieurs raisons. Souvent, c'était des malfrats, d'anciens malfrats, des personnes qui n'avaient pas d'héritage, qui n'avaient plus de terre, qui étaient pauvres, qui trouvaient ce boulot-là, et donc qui n'avaient pas de vie de famille, ou en tout cas de façon très parcellaire. Donc, c'était des gens vraiment au rebut de la société. Les pharisiens ou les religieux, on interdisait de faire l'aumône aux bergers, de leur donner de l'argent. les bergers n'avaient pas le droit de témoigner à des procès. Pour vous donner une idée de la valeur qu'ils avaient au sein de la société, c'était pas grand-chose. Et on peut rajouter encore d'autres informations. Donc les bergers, c'était vraiment les rebuts de la société. Et qu'est-ce que Dieu fait ? Il envoie un ange, et ensuite une myriade d'anges, à des gens qui, là, en pleine nuit, je dirais au bout de tout, hein, prenons la planète, le Messie est en train d'arriver, ils ne le savent pas, personne ne le sait, mais eux, ils sont là, dans une contrée, dans la banlieue de Jérusalem, parce que Bethléem, c'est pas très loin de Jérusalem, en réalité. Et puis, une nuit, alors qu'ils ne s'y attendaient vraiment pas, un ange apparaît. Et c'est à eux que Dieu envoie le faire part. C'est à eux qu'il annonce l'accomplissement de la prophétie. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de dire ça. Ben, parfois, on se sent misérable dans l'existence, que l'on soit croyant ou pas. On a l'impression que notre vie n'a pas tellement d'importance. La période que l'on traverse en ce moment a tendance des fois à accentuer la particularité de notre existence. Je pense aux personnes seules, par exemple. Elles sont sans doute encore plus seules en ce moment. Je pense aux personnes qui ont des problèmes de couple. Pour certains, la période actuelle renforce les problèmes de couple, parce qu'ils sont comme confinés avec leurs problèmes. On peut multiplier les exemples à l'envi. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que mon existence a-t-elle de la valeur ? Ces gens-là qui étaient mis de côté, assimilés à des gens malhonnêtes, systématiquement rejetés par tout le monde, ils connaissaient même pas la loi de Moïse, parce que comme ils n'étaient pas instruits, ils n'avaient pas le droit de participer au culte, ils n'avaient pas le droit de s'approcher et d'écouter les enseignements, donc ils connaissaient très peu la loi de Moïse. Alors c'était un cercle vicieux, parce que comme ils ne connaissaient pas la loi de Moïse, évidemment on les rejetait, etc., etc. Et pourtant, Dieu annonce une bonne nouvelle en disant « Dieu avec nous ». Mais en fait, on pourrait dire « Dieu avec vous est là ». Et c'est à vous que je l'annonce. C'est à vous que je le dis. C'est à vous que je propose de recevoir cette bonne nouvelle et d'avoir une espérance. Vous savez, on peut imaginer, tout comme nous, lorsqu'on a des périodes difficiles, de solitude, d'isolement, de déception, de désespoir, de découragement. On peut regarder à notre existence et puis on peut se dire la vie, est-ce qu'elle vaut le coup d'être vécue telle qu'elle se vit ? Mais au-delà de... Ça, c'est déjà un premier constat qu'on peut faire, mais au-delà du constat de notre propre vie, on peut être un berger au fin fond des montagnes, tout comme on peut être confiné dans son petit studio en banlieue parisienne. On a aussi d'autres interrogations, pas uniquement sur notre existence, mais des questions sur la vie en général. D'où on vient ? À quoi ça sert tout ça ? Où va-t-on ? Quel est le sens de mon existence ? Vous savez, les gens qui sont en contact avec la nature, ce sont souvent ceux qui se posent des très bonnes questions. Et ça n'a rien à voir avec l'écologie. Ça a à voir avec la réalité de la vie, avec la création de Dieu. Et d'autres se posent des questions sur les religions, finalement. Ils essaient de trouver un sens en se posant des questions, en lisant de la philosophie, en étudiant les religions, ou en adoptant la religion familiale, les traditions. Mais des fois, on s'interroge quand même et on se dit, mais est-ce que c'est la bonne religion ? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule religion ? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule vérité ? Qui est Dieu ? Est-ce que c'est un éléphant avec une trompe que je vais adorer au coin d'une rue à Calcutta ? Est-ce que c'est un homme qui sourit tout le temps, les jambes croisées, et qui est rentré dans le ça, dans le rien en fait, hein, là où il n'y a ni blanc ni noir, ni bien ni mal, ni le ça. J'appelle ça le nirvana. Est-ce que c'est un dieu qui est content lorsqu'on pose des bombes et qu'on exerce une forme de justice sur la terre ? Est-ce que c'est ce totem que j'adore dans mon village et de génération en génération, on fait ça ? Ou est-ce que c'est ce fleuve qui passe, que l'on adore ? Ou alors est-ce qu'on se dit « il n'y a rien ?» Mais est-ce que c'est vrai qu'il n'y a rien ? Est-ce que je suis sûr qu'il y a rien ? Et puis on peut se poser la question sur le christianisme. Est-ce que c'est Jésus-Christ ? le Fils de Dieu ? Et donc il y a plein d'interrogations, et elles sont légitimes. On ne peut pas adhérer à quelque chose si on ne se pose pas la question avant. On ne peut pas dire oui s'il n'y a pas eu la question avant. La question, c'est par contre d'être intègre. Et nous, qui pour la plupart d'entre nous, je l'espère, ont reçu Christ, si c'est vraiment Christ la vérité, est-ce que nous vivons Christ au quotidien ? Est-ce que nous croyons qu'il veut être avec nous ? Est-ce que nous voulons être avec lui ? Est-ce que nous voulons marcher selon sa volonté, selon sa parole, selon son caractère, ses attributs ? Et une fois qu'on se pose cette question, on se dit « Oui, mais est-ce que Dieu voudra aussi m'accepter, moi ?» Je peux, vous savez, ça m'est arrivé d'évangéliser plus d'une fois avec des gens. Vous avez des gens qui admettent que Christ soit le Sauveur. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Historiquement, je ne sais pas pourquoi, ils sont convaincus. Mais par contre, ils sont convaincus que eux ne peuvent pas être sauvés à cause de leur péché. Parce qu'ils en ont trop fait. Parce que c'est trop tard. Alors des fois, c'est des calculs complètement, je dirais pas absurdes, mais subjectifs. Vous discutez avec une personne de 40 ou 50 ans qui se dit « Mais si je meurs à 80, j'ai fait des bêtises pendant 50 ans, il me reste 30 ans à vivre, donc c'est trop tard. » D'abord, on n'est pas sûr, on ne sait pas à quelle heure, j'allais dire, mais oui, quelle heure, ni quel jour, ni quelle année on va mourir. Mais en plus, Dieu ne calcule pas comme ça. La balance n'est pas entre ce que j'ai eu le temps de faire et ce que j'ai eu le temps de ne pas faire, ou le temps que j'ai eu pour faire le bien ou le temps que j'ai eu pour faire le mal. La balance, c'est ma vie et celle de Christ. Est-ce que Christ a tout fait pour que moi je sois sauvé ? Est-ce que je crois en lui et je cesse de croire en moi ? Et cesser de croire en soi, c'est même cesser de croire qu'on n'est pas capable. Cesser de croire en soi, c'est évidemment croire qu'on peut être sauvé par ses propres forces, mais cesser de croire en soi, c'est aussi cesser de croire qu'on ne peut pas être sauvé. C'est qu'on oublie notre propre perception des choses. On regarde à Christ. En réalité, vous savez, beaucoup de gens cherchent leur origine en ce moment, alors qu'il y a des débats et des lois qui sont faites sur la famille, l'adoption, la GPA, la PMA, famille recomposée, les héritages, bref. Tout ce qu'on peut voir dans une société où la famille unie existe de moins en moins, on s'aperçoit avec le temps que les gens cherchent à retrouver leurs origines. Qui est mon vrai père? Qui est ma vraie mère? Quelle est l'histoire familiale? Et l'humanité en général fait des recherches, pas uniquement pour des besoins scientifiques, mais simplement pour savoir, si on devait quantifier les sommes d'argent qui sont dépensées chaque année, et je suis pas contre, hein, je veux dire, mais qui sont dépensées pour essayer de connaître l'origine de l'homme. Il y a des milliards qui sont investis chaque année. On envoie des sondes spatiales pour connaître l'origine de l'univers. C'est qu'on a envie de connaître ses origines. Mais il y a un chaînon manquant qui manque là. C'est quel est le lien entre la transcendance et la réalité physique des choses. Est-ce que je suis simplement un agrégat de cellules qui font que elles ont été organisées de cette manière-là, ce qui fait qu'il se passe, il y a des circuits électriques qui sont les miens et du coup, bah, j'ai ce goût-là. Mais si je pense comme ça, ça veut dire que je n'ai pas de valeur morale. Ça veut dire que ce que je fais, ce que je choisis, ce que je décide, même si je décide de vous tuer, ce n'est que le résultat d'un amas d'atomes qui ont été organisés d'une certaine façon, et le processus chimique et électrique a fait que il y a des émotions qui sont suscitées, que l'on peut aussi analyser, et je produis tel ou tel acte. Du coup, je ne suis pas coupable. Je suis le résultat de la nature. Et donc, vous n'avez pas à m'en vouloir. Ou alors, il y a quelque chose qui transcende mon être physique, mon existence. Et j'ai au fond de moi bien conscience que je suis responsable de mes actes. Je suis bien conscient qu'au fond de moi, il y a un besoin, un désir d'une transcendance. qui va au-delà des mathématiques, de la physique, ou des lois, quelles qu'elles soient. Mais c'est la vie. La vie spirituelle. Et ce chaînon manquant, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous avez un Dieu qu'on ne peut pas voir. Personne ne peut voir Dieu, dit Jésus. Personne. Mais moi, je vous ai montré qui est Dieu. Dieu avec nous. Emmanuel. Ce qui fait qu'à la limite, on n'a même pas besoin maintenant de... Peut-être que Dieu nous le révélera, mais à la limite, on n'a même pas besoin de voir ce qui se passe. Parce qu'on a tous, c'est un peu comme Philippe qui dit « Mais montre-nous le Père ». Et Jésus dit « Mais je suis avec toi depuis si longtemps. Et tu me demandes de montrer le Père, mais je te le montre déjà. T'as pas besoin de plus. Parce que tu es un être humain, moi je suis un être humain, et par ma nature humaine, je te présente entièrement qui est Dieu. » Le chaînon manquant. Ce qui manque entre un Dieu qui est esprit et qui, nous, avons un esprit humain dans un corps mortel. Et non seulement Jésus est ce chaînon manquant qui nous présente Dieu, mais nous présente un Dieu qui sauve. Si on reprend un petit peu le fil là, de ce qui a été lu tout à l'heure en Luc 2, c'est que ces bergers... Peut-être eux vivaient aussi dans la culpabilité en se disant « on a raté notre vie ». Peut-être qu'ils s'étaient retrouvés bergers parce qu'ils avaient fait des mauvais choix dans leur vie. Ils étaient sans aucun doute un mauvais témoignage, c'était pas les juifs les plus glorieux qui soient, sans doute. Et peut-être qu'ils avaient essayé de changer de vie, comme nous des fois on essaye de changer de vie, mais on échoue. Des fois il y a un travers qui reste dans notre vie, ou plusieurs même. Un péché qui reste, une culpabilité qui reste, une forteresse qui reste. Un problème qui ne change pas. Et on se dit, j'aurai jamais la victoire. Tout comme les bergers pouvaient se dire, bah, nous on sera là jusqu'à la fin des temps et puis on va mourir et qui se souviendra de nous? Mais Dieu s'est souvenu d'eux et il a envoyé un ange. Et on peut imaginer, vous savez, là, après, à la fin de la scène, on a la myriade d'anges qui chantent. Mais n'oubliez pas que les anges, eux, n'ont pas chuté, ils sont parfaits, ils protègent même la sainteté de Dieu des fois. Et imaginez l'ordre de Dieu, c'est Dieu qui dit, vous allez voir les bergers là, attends, on n'a pas bien entendu, t'as dû te tromper. Non, non, vous allez annoncer ça au berger. Et nous, on peut être aussi dans ce désarroi-là et penser que on a un besoin impérieux, on a envie de connaître Dieu, on a envie d'avancer dans la vie chrétienne, on a envie peut-être de connaître Dieu si on ne le connaît pas. Mais on se dit, comment y avoir accès? Quel est ce chaînon manquant-là qui me permet d'avoir la victoire? Souvent, nous, on essaye d'être le chaînon manquant. Et la religion essaye de produire ça. C'est-à-dire qu'il y a mon incapacité, je suis pécheur, il y a la notion de sainteté que j'ai en moi, sinon je ne serais pas coupable. Mais le chaînon manquant, ça va être la religion. Je vais essayer de toutes mes forces à réunir l'impossible. Réunir l'incapacité avec la transcendance. Réunir un corps mortel avec la vie mortelle. Peut-être que si j'arrive à faire quelque chose dans cette vie, on va le joindre les deux bouts. Mes amis, à cause du péché, on sera toujours en dette. Le seul qui a payé la dette, c'est Christ, par son sang. Dieu avec nous. Il a été fait de chair et de sang, et il a versé son sang pour nous. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est pour ça que nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous sommes aimés par Jésus-Christ, nous sommes appelés par Jésus-Christ, nous sommes fortifiés par Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ. Et regardez au verset 10 ce que les anges disent. Ne craignez point. La première chose, c'est étonnant de voir combien de fois cette phrase apparaît. Rappelez-vous, après la résurrection, Jésus, quand il vient devant des disciples, il leur dit toujours « n'ayez pas peur, ne craignez point ». Parce qu'en réalité, même quand on ne connaît pas Dieu, on a peur de lui. C'est quand même un peu particulier. C'est un peu comme si on avait peur du noir. Vous savez, je me rappelle quand j'étais à la campagne, une fois il fallait aller aux toilettes au fond du jardin. Et il faisait noir, vous savez, vous étiez là, vous traversez le champ, il fait froid l'hiver. Il y a personne, mais vous croyez qu'il y a quelqu'un. Donc vous traversez quand même, parce que votre raison vous dit qu'il y a personne, donc vous y allez quand même, puis il faut aller aux toilettes, hein, on n'a pas le choix. Et en même temps, on s'imagine des choses. Il y a la peur. Et des fois, les gens qui ne croient pas en Dieu sont comme ça. Ils ne croient pas en Dieu et en même temps, ils ont peur de, pas seulement de mourir, le passage, mais ils ont peur même d'après. Ils ont peur éventuellement quand on leur parle de Dieu en se disant « Non, je ne suis pas d'accord. » Ne pas être d'accord, ça permet de fermer la porte. Il y a une crainte. Et parfois, les chrétiens ont peur de revenir à Dieu. Ils pensent que ce n'est pas possible. Et les bergers, en voyant arriver un ange, ils pouvaient dire « Ça, et là, c'est notre dernière heure. Les hommes, ils nous ont rejetés, mais alors l'ange, lui, attention. » Et l'ange, il dit « Ne craignez rien. » Ou « Ne craignez point. » Et pourquoi ils ne devaient pas avoir peur? Le verset 10 le dit « Car je vous annonce une bonne nouvelle. » Et ce que nous fêtons, Noël, c'est une bonne nouvelle, on le sait. Mais est-ce que nous croyons toujours que c'est une bonne nouvelle en tant qu'enfants de Dieu? Ou est-ce qu'on s'est compliqué la vie pour faire de notre christianisme quelque chose qui n'est plus une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Vous savez, imaginez, d'ailleurs ça arrive des fois dans les familles ou avec les amis, les gens sont invités à un repas de Noël, mais comme dans la famille ils ne s'entendent pas bien, bon, on y va, mais c'est pas tellement une bonne nouvelle. Ah, ils nous ont invités, bon, on est obligé d'y aller, alors ça c'est pas une bonne nouvelle. Mais plus encore, imaginez que quelqu'un vous offre un cadeau et vous n'osez pas l'ouvrir en disant « lui m'aime pas beaucoup, si je l'ouvre, il va m'arriver des histoires. C'est peut-être une bombe ou quoi que ce soit. » Non, en général, quand on nous offre des cadeaux, c'est une bonne nouvelle, en règle générale. Et Noël célèbre cette bonne nouvelle. C'est le cadeau de Dieu fait à l'humanité. C'est un cadeau qui a été fait pour moi. Je vais avoir des cadeaux sans doute cette semaine. Mais je suis désolé de le dire, à qui de droit, le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'est Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle. C'est mon sauveur que j'ai reçu, qui m'a été envoyé. Et c'est Dieu avec moi. C'est un cadeau qui ne s'use pas. C'est une personne qui est fidèle. C'est Dieu avec moi, pour toujours. Et donc, on se commémore cet événement ensemble. On commémore cet événement, on s'en rappelle. Et il rajoute, verset 10 toujours, « Je vous annonce une bonne nouvelle, pour tout le peuple, ce sera le sujet d'une grande joie. » Et imaginez ces bergers, les rebuts de la société, si vous lisez, on va pas le faire cet après-midi parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous lisez jusqu'à la fin du chapitre, ils vont descendre après en ville et puis ils vont dire « on nous a annoncé quelque chose, on vous le répète. » Vous savez, quand on est rempli de la bonne nouvelle, on en parle à d'autres. On a envie d'évangéliser. Vous savez, imaginez, je sais pas, vous commencez à fréquenter quelqu'un, c'est votre fiancé, peu importe. Et puis à un moment donné, l'une des deux personnes dit, bon, quand est-ce que tu me présentes à tes parents? Moi non, je ne vais pas te présenter à tes parents. Moi je t'aime, mais bon, faut quand même pas exagérer. Là vous dites, attends, pourquoi tu veux pas qu'on parle de moi? T'as honte? Et tu veux pas me présenter à des amis? Non, mes amis, ils t'aimeront pas trop. Moi, je t'aime, mais on reste entre nous. Je te présente pas. C'est un peu spécial comme relation. Et des fois, les chrétiens sont un peu comme ça. Ils parlent pas beaucoup de Jésus à leur entourage. Ils ont un peu honte. Alors peut-être que, tout comme on a des fois des parents qui vont rejeter le fiancé ou la fiancée, oui, c'est vrai, notre entourage va peut-être rejeter Jésus-Christ. Et en même temps, on fait un choix. Tout comme devant les parents, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, à un moment donné, il va dire à ses parents, c'est quand même cette personne-là que je vais épouser. Et comme je t'aime, j'affirme cet amour, quitte à ce qu'il y ait de l'opposition. Et les bergers, ils étaient mis de côté, ils auraient pu se dire, bon, la bonne nouvelle, on la garde pour nous. Ils nous ont tellement enquiquiné, eux, le sauveur, ils l'auront pas. Ils ont pu s'empêcher de descendre et dire « Hé, nous qui sommes, ils l'ont pas dit comme ça, mais nous qui sommes les rebuts, vous savez quoi, on a quelque chose à vous dire. Et c'est pas à vous que ça a été dit, c'est à nous. » Et ils vont commencer à répéter. C'est le même principe que la femme au puits, la Samaritaine. Elle va aller dans le village, elle va raconter à tout le monde ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que la femme Samaritaine a elle aussi entendu quoi? Une bonne nouvelle pour elle, une très bonne nouvelle. Et Jésus a été avec elle au puits pendant un petit moment. Il lui a ouvert l'esprit. Et elle, qui essayait peut-être de remplir son âme par le fait d'avoir plein de maris, et maintenant qu'elle n'était même pas mariée, elle était avec un autre, ben voilà, elle était insatiable dans ses émotions. Elle vivait dans le péché, mais en même temps, elle avait un besoin. Et ce besoin la rendait coupable devant Dieu. Donc, elle s'en sortait pas. Mais à un moment donné, il y a eu un chaînon manquant. Ce qui manquait à son existence, c'était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu et a transformé cette femme. Il a fait un pont. Alors, en tant que samaritaine, elle était là, pas totalement païenne, mais pas totalement juive non plus. Elle était entre les deux. Et ben, Jésus a manifesté cet amour envers cette femme et il a été un chaînon manquant pour elle aussi. Même pour cette samaritaine qui avait des fois une vision tordue des Écritures. C'est pas grave. Et nous, de même manière, on a une vue faussée des fois dans l'existence. On voit pas bien les choses. Mais la meilleure façon d'avoir une vue guérie, c'est de regarder à Jésus-Christ. De regarder à la bonne nouvelle. Et de dire, Seigneur, Dieu avec moi, mais qui tu es pour moi? Tu es mon ami? Tu es mon confident? Tu es celui qui est fidèle? Tu es celui qui m'a fait des promesses? Tu es celui qui m'abandonnera jamais? Tu es celui qui a versé ton sang pour moi? Tu es celui qui a voulu s'incarner? Ouais. Ouais, j'ai plus besoin de chercher. J'ai été trouvé par Dieu. Et au verset 11, quel est le contenu de cette bonne nouvelle? Un sauveur, j'en ai déjà parlé, qui est le Christ, le Seigneur. Vous savez, quand vous êtes au bord de la mer et que vous avez des surveillants de baignade, des sauveteurs, on espère à minima qu'ils savent nager. D'accord? Parce que sinon, ils peuvent avoir le t-shirt, hein. Mais ça servira pas à grand chose. Et la religion, dans le sens négatif du terme, c'est ce qu'elle propose. Toutes les religions, c'est, voilà, on a quelque chose pour vous. Oui, mais le jour où vous allez mourir, la religion pourra rien faire pour vous. En revanche, Jésus est le sauveur. Il est le maître. Il est celui qui est capable de nous sauver. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Et on n'est pas uniquement en train de regarder son t-shirt, hein, sauveur, comme un autre serait marqué maître nageur ou surveillant de baignade. Non, non, on regarde à la croix et on dit, oui, là j'ai compris, il est capable de nous sauver. Je regarde à la croix, je regarde à la résurrection, je regarde au sang versé, au coup de foi qu'il a reçu, la couronne d'épines, les paroles qu'il a prononcées à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand il se tourne vers le brigand qui lui croit, il y en a deux, hein, mais il y en a un des deux qui croit, ils disent, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire que cet homme, ce brigand, a entendu de la part de Jésus, cloué à la croix comme un brigand, parce qu'il a porté nos péchés, il a été vu comme un malfaiteur. Eh bien, à la croix, Jésus a continué d'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Nous avons un Dieu qui, en permanence, veut nous annoncer les bonnes nouvelles. On voit aussi qu'il est le Christ, le Messie. Alors, en grec, en fait, ça veut dire le oint. Le oint, c'est-à-dire qu'il y avait de l'huile qu'on mettait sur les autorités, principalement sur le roi ou sur le souverain sacrificateur, et on lui mettait de l'huile sur la tête. Et l'huile parle du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il avait la puissance de Dieu pour exercer l'autorité. Et le Père a oint Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il s'appelle Jésus le oint, Jésus-Christ ou le Messie, si vous voulez. Ce sont les mêmes sens. C'est-à-dire qu'il avait autorité pour le faire. Vous savez, il y a plein de gens qui aujourd'hui, dans certaines branches du christianisme, essaye d'expier pour le péché des autres. J'avais entendu parler une fois de quelqu'un qui se mortifiait et son supérieur hiérarchique disait « Cette personne agit comme un paratonnerre pour Dieu. » C'est-à-dire que Dieu est encore en colère, vous savez, il envoie la foudre et puis vous auriez des croyants qui souffrent et qui reçoivent la colère de Dieu comme Christ l'a reçu, mais lui, il a entièrement reçu la colère de Dieu, il n'y a pas besoin de rajouter. Mais ces gens-là croient que Dieu rajoute encore. Donc, on peut aujourd'hui avoir plein de gens qui se crucifient, plein de gens qui se flagellent, plein de gens qui font plein de choses pour vous. Mais celui qui a tout fait pour nous, c'est Jésus-Christ en réalité. C'était lui le chaînon manquant. C'est pas quelqu'un d'autre qui peut suppléer à ce besoin que nous avons d'avoir un sauveur. Et donc, il fallait que Dieu lui donne cette autorité. C'est toi le sauveur, c'est toi le Messie. Et puis, il est Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a la souveraineté de Dieu et l'autorité. Dieu est souverain, et Jésus-Christ l'est aussi. Et aujourd'hui, marcher avec Dieu, c'est accepter sa souveraineté. Et j'arrive au dernier point, c'est qu'il y a un signe. Parce que, vous savez, Dieu, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais en même temps, il veut se faire comprendre. Il veut nous donner de l'assurance. Et donc, il dit au berger, voilà quel sera le signe que ce que je suis en train de vous annoncer est vrai. Vous allez descendre là à Bethléem, et vous allez voir, il va y avoir, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Vous savez, on a perdu aujourd'hui l'habitude des enfants emmaillotés. J'ai pas d'avis là-dessus, c'est pas le sujet, mais aujourd'hui, il faut que les enfants bougent. Donc, ils sont dans des vêtements, je dirais, ordinaires, et bougent dans leur lit, sur leur chaise, etc. Mais, à mon époque, je m'en rappelle pas, mais j'ai vu des photos, c'était un sarcophage, on nous emmaillotait parce qu'il fallait pas qu'on bouge. Donc, on était avec nos bras et nos jambes, là. Et je me rappelle de façon encore plus excessive encore quand on allait en Roumanie après la chute du mur. Là, c'était impressionnant, mais ils étaient emmaillotés. C'était rien que pour enlever les langes, ça prenait du temps, je peux vous garantir. Et donc, pensez à ça. Dieu fait homme, et déjà, les premiers jours de sa vie, il a été pris dans sa vie humaine, si vous voulez. Il s'est soumis au plan de Dieu. Il était là, dans cette mangeoire. Et les anges sont allés, et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Exactement ce qui avait été décrit. Et c'était ça le signe. C'est-à-dire que Dieu envoie des signes pour confirmer ce qui a été écrit. Et de la même manière, nous, lorsque nous annonçons Christ à notre entourage, ça va se faire peut-être en un instant, en une minute, des fois ça va prendre une vie pour témoigner de Christ à quelqu'un, peu importe le temps. Mais ce que Dieu fait, c'est qu'il est en train d'envoyer des signes. C'est-à-dire que voilà ce que dit la Bible, par exemple, qu'elle peut procurer la paix à ceux qui croient en lui. Et ils vont voir la paix en nous. Ça va être un signe. Il propose un appel et une espérance pour les croyants. Et les gens vont voir notre appel et l'espérance qui nous porte. Ils vont voir notre vie transformée. C'est qu'il va y avoir des signes. Et toutes les personnes qui sont, je dirais, touchés par l'Évangile, à qui on annonce l'Évangile, vont avoir des signes grâce à l'Église de Jésus-Christ. C'est pour ça que chaque vie est importante. Peut-être qu'on se sent aujourd'hui comme un berger, un peu un rebut. Mais en réalité, même un berger peut être un signe de Dieu pour communiquer la vérité aux autres. Mais les bergers eux-mêmes avaient besoin d'un signe. Et donc, qu'est-ce que Dieu a utilisé ? Un charpentier, une femme de charpentier, pauvre. Ils arrivent dans une ville pour dormir, mais en plus elle est enceinte. Ben, ils vont pas trouver de chambre disponible. Donc, ils vont aller dans une crèche. Et ben, leur vie va être un signe, déjà pour les bergers qui arrivent. C'est-à-dire que ça va pas être inutile. Tout ce que Dieu, dans sa souveraineté, a agencé, a pour objectif de faire connaître le Dieu vivant au travers de Jésus-Christ. Et c'est la même chose qui se passe pour nous. Ne regardons pas uniquement à notre condition sociale, condition physique, condition financière, condition intellectuelle, condition éducationnelle, condition culturelle, condition géographique, condition historique, condition, etc., etc. Regardons à Jésus-Christ. Et notre condition, elle est en Christ. Et en Christ, on peut être un signe pour les autres. En Christ, on peut être un signe pour les autres. Et prenons du recul, ou en tout cas, imaginons deux possibilités. Vous vivez à l'époque de ce livre, de l'Évangile, et vous êtes un spectateur en train de regarder l'existence des uns et des autres. Quelle vie vous allez avoir tendance à envier ? Ben peut-être un riche marchand qui a une grande propriété, un fermier qui a 20 ou 30 ouvriers. Voilà. Et puis les bergers, ah non, j'aimerais pas avoir cette vie-là. Là, en plus, ce soir, il fait nuit, là, ils doivent avoir froid. C'est horrible, ils sont pendant plusieurs mois dans les montagnes, j'aimerais pas avoir leur vie. Et puis maintenant, rétrospectivement, maintenant qu'on connaît l'histoire, quelle vie on a tendance à envier ? Ben, celle des bergers. Vous imaginez ce qu'ils ont vécu ? Cette nuit particulière, à justifier tout le reste de leur existence. Même avec leurs péchés, leurs bêtises, etc., cette vie a été rachetée par la révélation de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut attendre là-haut pour évaluer correctement l'existence qui est la nôtre. Mais en attendant, soyons fidèles dans les petites choses et croyons que ça va produire des fruits pour l'éternité. Ce sont là les vrais héros. On ne connaît pas leur nom à ces bergers. Et pourtant, ils sont, ils constituent la genèse de l'accomplissement des prophéties. Ces prophéties qu'on attendait depuis des siècles, voilà que d'un seul coup, il y a un flash d'info et c'est les bergers qui parlent au micro. C'est eux qui ont une nouvelle que les autres ne connaissent pas. Vous voyez comment notre point de vue peut être complètement subjectif. Je ne dis pas qu'il ne faille pas avoir de l'ambition par ailleurs et tout, mais c'est un autre sujet qui complète l'appel biblique, l'appel chrétien. Mais quand même, le nœud de l'existence, c'est est-ce qu'il y a une transcendance dans ma vie ? Est-ce que j'ai accès à ce qui manque à ma piété, à ce qui manque à ma faiblesse, ce qui manque à ma rébellion, ce qui manque à mon incompréhension, à mon aveuglement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Et c'est Jésus-Christ, ce chaînon manquant-là. Et non seulement je trouve un chaînon manquant, mais je trouve tout en Jésus-Christ. Parce qu'en lui, Dieu s'est plu à se révéler de façon parfaite. Donc, on a un enfant roi qui est dans une mangeoire. On a un couple de charpentiers là qui est, c'est une ville des plus ordinaires. On a des bergers qui sont les rebuts de la société, mais pourtant dans cette scène, on a le salut du monde. Le salut du monde pour l'éternité. Tous ceux qui croiront en lui ne seront pas confus et recevront la vie éternelle. Et qu'est-ce qui a changé leur vie à ces gens, à ces personnes ? C'est que Emmanuel, Dieu, était avec eux. Il n'était pas grand. Il n'était pas grand. Mais c'était tout. Dieu avec nous. Que Dieu vous bénisse.